Matière à réflexion. Les aventures du mois de juin. Pierre Desproges.
C'est étonnant, non?
Juin 1986, dimanche de la mi-juin, de l'été. C'est le plus beau jour, le vrai premier jour. Après 500 km, Alexandre descend de l'automobile pour forcer le portail de bois vers sombre. Anne gare la voiture sous l'abri de chaume. À l'arrière, l'ivresse désordonnée des joies folles fait trépigner les deux petites filles énervées. Dans l'allée de sable hérissée des herbes incongrues du printemps, un lapin stupéfait s'éclipse cul en l'air. Il a l'air con des lapins stupéfaits. Aussi peu concerné qu'un croque-mort à la noce, le chat sombre du voisin fou s'en va à peine. Au bout de l'allée est la maison. Sobrement tarabiscotée balnéaire 1910, toit d'ardoise, mur blanc et briques, cerné de vignes vierges. Quand il ouvre la porte, la chaleur enfermée fait monter du parquet nu, nourri d'huile de pin, la senteur exotique des ponts des vieux navires. De l'autre côté des volets blancs, la terrasse aux pierres bleues. En contrebas, immense comme une éternité tranquille, frémissante à l'infini, inéluctable comme la mort et plus crédible que Dieu, la mer, considérable, s'en fout intensément. La vraie mer, Atlantique. Pas la mer sans marée, stagnante et soupe aux moules, qui lèche le sud à petits clapotis mièvres, où l'anglaise dorée finissante fait frémir ses varices. Je vous parle de la mer venue d'ouest, qui claque au sable vierge, et va et vient, monte et descend, comme un amant formidable. La mer, tour à tour, miroir de plomb, mort ou furie galopante. La mer. Pied de l'escalier de pierre où la plage n'en finit plus de s'étaler, les eaux sont basses et leur rumeur feutrée comme une confidence où chointe un peu d'écume. Unique frisson de bruit dans cette splendeur inconcevable du crépuscule de juin. Alors les enfants, saturés d'autoroutes, avides d'air marin, cassent la paix du soir à coups de rire claquant. Elles se vautrent sur le sable et l'étreignent et s'y couchent à plat ventre avec des ferveurs de pape embrassant la terre sainte. Trois goélands choqués s'envolent infiniment. C'est un temps contre nature, comme le ciel bleu des peintures, comme l'oubli des tortures. Anne arrive doucement sur ses pieds nus. Bernuda Montparnasse et t-shirt diaphane, elle pétille, rassurante. Sous le grand chapeau de paille tressé noir, pose sa main sur l'épaule de l'homme pour regarder la mer ensemble. Tu devrais écrire un roman balnéaire. Elle dit cela comme on dit tu devrais mettre une laine ou il faudrait téléphoner à ta mère, sur le ton léger qui nous vient pour émettre des insignifiances si peu fondamentales que, l'instant d'après, on ne sait plus si on les a dites à haute voix ou simplement pensées. Mais c'est aussi le ton qu'on prend pour exprimer des évidences si fortement assises qu'elles n'appellent même pas de réponse. Toujours est-il qu'elle a dit « Tu devrais écrire un roman balnéaire. » Pour l'heure, elle regarde intensément la mer plissée de petits éclats blancs. Il lui dit qu'elle est folle, qu'on ne fait pas les romans balnéaires comme on fait les foins, qu'il faut l'idée, les idées et l'échafaudage. Et la plume sereine et lente, et peut-être, le talent d'écrivain. Elle reçoit le couchant de plein fouet et fronce le museau pour compter sa progéniture qui fait le dauphin débutant à la frange de l'écume. Vu d'ici, on dirait des fourmis déconnant sur un ourlet. Elle rit. C'est un joli début pour le livre. Les enfants jouaient dans la mer à marée basse. Vu de la terrasse, on aurait dit des fourmis déconnant sur un ourlet. Et après, il faut une histoire, je ne sais pas, moi, la mer est plate et rassurante, mais le vent souffle de la terre, et le plus petit enfant, dans sa bouée de plastique, disparaît à jamais vers les Amériques. La douleur des parents fait peine à voir, le malheur se lève et le soleil se couche, racontez. Non, ce serait encore de l'humour de cimetière. Ça va comme ça, tu as déjà donné, trouve autre chose. Je ne sais pas, moi, les Russes débarquent. Parle-t-en-tu quand c'est original ? Le jour continue rouge de ne pas mourir. Alexandre se dit qu'il est résolument contre l'abolition du mois de juin. Août est vulgaire, transparent et mou. Les méduses et les banlieusards échoués s'y racornissent sur le sable dans un brouhaha glapissant de congés payés agglutinés. Août pue la frite et l'aisselle grasse. En août, les pauvres en caleçon laid, mains sur les hanches face à la mer, l'œil vide et désemparé, n'osent pas penser qu'ils s'emmerdent. De peur que l'omniprésence de sa femelle indélébile, de sa bouée canard grotesque et de son chien approximatif ne lui fasse douter de l'opportunité posthume du Front populaire. Le mois de juin est autrement gracieux. En juin, les jours sont longs et blonds comme les nubiles scandinaves au sein mouillé qui rient dans la vague jusqu'à la minuit. En juin, au marché des pêcheurs, on ne se piétine pas encore, on flâne. Derrière le porc, la tomate cerise est pour rien à l'étalage de la maraîchine. On la croque au sel sur la table avec une branche de basilic et un verre de vin blanc de Brême glacé. Vivre la ville en août, vivre la mer en juin, c'est l'ultime aristocratie et la rare élégance de l'estivant hexagonal. Ce soir, ils ont sorti la grande table de chêne sur la terrasse, face à l'océan. Le mur blanc surchauffé renvoie la chaleur accumulée du jour. Pourpre et lent comme un prélat, le soleil descend religieusement sur l'horizon paisible, comme une hostie rouge avalée par la mer. Et Alexandre se demande combien de phrases aussi bigrement poétiques il faut caser dans un roman balnéaire pour que ce soit aussi beau qu'une chronique de sous-bois Sologno avec des senteurs de mousse et des écureuils hystériques qui viennent manger dans la main de Maurice Genevoix. « Tu n'as pas vu les filles ?» demande Anne. « Pourquoi, Anne, demande-t-elle, tu n'as pas vu les filles ? Les enfants auraient-elles disparu ? Si oui, où, quand, comment, pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? Vous le saurez. Oui, vous le saurez en écoutant demain à la même heure, sur cette antenne, les aventures du mois de juin. Une bouleversante saga en 2, 3 ou 12 épisodes, ça dépend. Quant à ce féroce norrois, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais il fait rien qu'à mugir dans nos haubans.
C'est étonnant, non ?
Les aventures du mois de juin, suite. Pierre Desproges, 24 juin 1986. Résumé du chapitre précédent. Anne et Alexandre profitent du mois de juin pour ne pas partir en août. Ils glandent dans leur maison au bord d'une plage atlantique avec leurs deux enfants, probablement des petites filles. J'ai pas bien suivi le début. Soudain, alors qu'Alexandre, sur la terrasse face au couchant, fait rien qu'à se poser des questions fondamentales de type romantique de bain, Anne s'écrie. « Tu n'as pas vu les filles ?»« C'est bien ce que je disais, c'est des filles. » « Non, il n'a pas vu les filles. » Tous les étés, il perdait les filles. 10 fois, 20 fois, la maison, le jardin, les plages sont vastes et les enfants, au sortir du bas âge, puissamment volatiles. Pessimiste sans nuance, 10, 20 fois, il nourrit goulûment son angoisse maladive de ces escapades dont il entrevoit toujours l'issue la plus tragique. « Ma fille, ma petite, ma porcelaine, toujours je t'imagine brisée. » Du jour où ses enfants sont nés, il n'a cessé au creux de ses nuits blanches et de ses jours noirs de les entrevoir courant en nu sous les bombes, éclatés sous des camions distraits, torturés jusqu'au cœur par les fureurs immondes d'irréfutables monstres, ou roulés sous les vagues, happant les algues, à mort en suppliant des yeux pour rattraper la vie. Avec une minutie de flic obtus, il fouille et contrefouille le garage, la voiture, la haie de fusain, la maison pièce à pièce, où ils hurlent leurs deux noms, pendant qu'insidieusement, le froid blanc d'une horreur innommable lui monte aux tripes, étouffant peu à peu l'autre lui-même, qui s'épuise à trouver que tout va bien les gars, rien à dire, c'est tout bon, pour un beau mois de juin, c'est un beau mois de juin. Au bout de 20 minutes, on sort la voiture, le vélo, les voisins, la police et les chiens. Je suis formel, On n'a rien vu sur l'eau, affirme le pimpant CRS balnéaire. Sur l'eau, je m'en fous. Mais sous l'eau, risque-t-il, exhibant sans vergogne son humour clé en main avec vue imprenable sur le cimetière. C'est plus fort que lui, plus la situation est sombre, plus il en rit. Juif aux années sombres, il aurait sans doute contrepété aux portes des chambres à gaz. N'eussent été les menaces du fouet, il a horreur qu'on le fouette quand il contrepète. Ses petites ne sont pas noyées. C'est donc un coup du sadique des plages. Encore qu'on cite peu de cas de sexualité de groupe chez les assassins pédophiles. Il pense à solder sa planche à voile et le magnétoscope portable pour réunir le montant de la rançon. Peut-être faudra-t-il aussi songer à vendre la maison, la collection de tire-bouchons et les Bordeaux 75 qu'il ne comptait pas ouvrir avant le printemps 89. Pas après non plus, à cause de la chimiothérapie, parce que bien sûr il attend son cancer incessamment. Mais de toute façon, dès les premiers symptômes, il finira sa cave à la carabine. Après l'heure du chien, après l'heure du loup, on n'a toujours rien trouvé. La mère est folle et toute blanche. Elle tord ses doigts et ses yeux, souvent doux, dessinent dans ceux d'Alexandre la même horreur sans mesure où ils vont sombrer, c'est sûr. Pourquoi l'idée que ses enfants souffrent lui est-elle si complètement insupportable alors qu'il dort, dîne et baise en paix, quand ceux des autres s'écrasent en autocar, se cloquent au napalm ou crèvent de faim sur le sein flappi d'une négresse efflanquée. On s'a endormi, dit la plus petite hébétée, qu'un voisin découvre à la nuit, assise au milieu du jardin, échevelée, bouffie de torpeur, ronronnante. Elle avait joué au sous-marin noir dans le grand placard de leur chambre. Saturée d'air du large et de soleil lourd, elles avaient succombé au sommeil sur un tapis roulé de l'autre côté de la porte close. « Mais où étiez-vous » hurle-t-il dans un cri métallique de colère brisée. « Où étiez-vous » suffoque la mère, vacillant sous la violence intolérable du soulagement qui la submerge comme un scaphandrier d'apocalypse, trop brutalement remonté des enfers. On s'a endormi. « Nous nous sommes endormis, rectifie-t-il un dixième de seconde avant de concevoir assez honteusement l'ampleur, l'incongruité et la sottise pédagogique de sa remarque. C'est congénital, il a toujours eu un respect profond, presque craintif, pour la langue, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire et toutes ces conneries. À la maternelle, déjà, il ne disait plus « cacaboudin, la maîtresse en maillot de bain », mais « la chair est triste, hélas », et j'ai lu tous les livres. « Papa, on s'a fait violer. On s'est fait violer. » Enfin bon, elle s'avait endormie, elle s'avait réveillée, et les voici qui torturent en piaillant des langoustines défuntes qu'elles éclatèrent pour s'en gaver sous la lune que la mère endormie réfléchit bruyamment. « Au secours, docteur, je ressens comme un point, là. Faites voir. »« Ah oui, je vois ce que c'est. C'est un bonheur insupportable. Ah bon ?» Quant à ce son impur, je le dis, et c'est pas pour cafeter, mais il fait rien qu'à abreuver nos sillons.
C'est étonnant, non ?
C'était Matière à réflexion, Les aventures du mois de juin, de Pierre Desproges, lecture Gontran Bodequin.